ce que nous a donné David ce matin, le Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je crois que bien souvent dans la vie, ce qu'on cherche, c'est on cherche un modèle. On cherche à savoir comment avancer avec Dieu, comment, quelle est la volonté de Dieu, et comment est-ce qu'on peut aller loin avec Dieu. Mais ça pose la question aussi avant tout de notre position en Christ, de notre position en Dieu, notre position dans la vie, notre position dans tout ce qui nous entoure, dans le monde, dans nos relations avec les gens, dans notre position dans les défis qu'on rencontre autour de nous. Et je crois que c'est un sujet dans lequel on a besoin de creuser un petit peu, parce qu'on regarde parfois on regarde souvent ce qu'on perd, mais on regarde pas forcément ce qu'on a gagné. On n'a pas forcément le réflexe de regarder ce qu'on a gagné. Et on a beaucoup gagné. On a beaucoup, beaucoup gagné en Dieu. On a beaucoup gagné en Christ. On a beaucoup gagné. Il nous a placé dans une position qui est vraiment favorable et que, je vous propose de regarder ça. On va prier. Seigneur, je remets, Seigneur, ces moments entre tes mains. Et je te remercie pour le privilège que nous avons de nous retrouver ce matin. De nous retrouver, Seigneur, autour de ta parole, de nous retrouver, Seigneur, dans les chants, dans l'encouragement, Seigneur, dans l'amour, Seigneur, fraternel. Et je te rends grâce parce que toi, tu ouvres, Seigneur, des portes au devant de nous, Seigneur. Et tu t'attends à ce que nous saisissions, Seigneur, les promesses qui sont en toi. Seigneur, saisissons la grâce, Seigneur, qui nous a été donnée, qui nous a été dispensée. Et nous voulons, Seigneur, te remettre, Seigneur, toute chose de nos vies, toute chose de nos pensées, que, Seigneur, vraiment la pensée de Christ, Seigneur, gagne nos cœurs, que Saint-Esprit, tu parles, Seigneur, à nos vies, et tu nous aides, Seigneur, tu nous encourages sans cesse pour comprendre, Seigneur, le trésor et la richesse que nous avons gagné en toi. La grâce, Seigneur, qui nous a été faite, Seigneur, de te rencontrer, Seigneur, et des fois on voit ça un peu au passé, mais c'est aussi au présent. C'est au présent, chaque jour, Seigneur, qui passe, Seigneur. Toi, tu es là, présent dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, de pouvoir regarder ces choses-là en face. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle est notre position en Dieu? Quelle est notre position? Aujourd'hui, si je vous pose la question, c'est mais voilà. Comment est-ce que nous nous trouvons? Comment est-ce que nous situons dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu, lorsque des fois on rencontre des difficultés et qu'on rencontre des défis, on est vite tenté de se laisser abattre. Et aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, il y a des gens qui rencontrent des défis dans le monde que nous, on n'a même pas encore rencontrés. Il y a des églises qui ferment, il y a des gens qui sont persécutés, et pas persécutés uniquement parce qu'on a dit « Ouh, tu es chrétien, c'est pas bien, tout ça ». Mais persécutés dans leur chair, persécutés dans leur corps. Comment est-ce qu'ils peuvent tenir? Comment est-ce que nous pouvons tenir si demain, c'est quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qui se produit dans notre vie? Quelle sera notre position en Christ? Quelle sera notre position en Dieu? Comment est-ce que nous pouvons être sûrs que j'ai une position dans laquelle je sais qui est mon Dieu? Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru et il n'y a rien ni personne qui ne me fera douter de ça. Rien ni personne qui ne me fera douter de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu dans ma vie. Rien ni personne ne me fera douter de sa volonté qui s'accomplit, qui se manifeste dans ma vie, même si ça doit passer par la souffrance, même si ça doit passer par la difficulté. Et je voudrais prendre avec vous un passage dans la Bible, dans le livre de Jean, et c'est un passage que j'ai cité il n'y a pas très longtemps, en même temps le temps passe vite, dans Jean, au chapitre 1. Et donc, vous savez, c'est les commencements de ce que Dieu fait. Jean, au chapitre 1, il y a tout le commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la lumière est venue dans le monde. Cette lumière a brillé dans le monde. Et au verset 12 et 13, à partir du verset 11, il est dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et aujourd'hui, vous comme moi, ensemble, nous pouvons dire nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas uniquement le fait que un jour j'ai pensé, j'ai décidé, j'ai désiré être enfant de Dieu. C'est parce que Dieu a choisi de nous faire ses enfants. Dieu a choisi de nous attirer à lui. Dieu a choisi de nous amener à lui et de nous faire connaître une réalité qui est bien plus grande que celle qu'on connaissait auparavant. Et je voudrais m'arrêter sur une partie de ce passage dans lequel la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je voudrais parler de ce passage-là. Quand on parle de donner, d'accord, si quelqu'un me donne quelque chose, je me dis « Ah merci, c'est un cadeau, c'est formidable. » En même temps, je vais peut-être aujourd'hui, on se méfie de ce qu'on nous donne. D'accord, on se dit « Mais je te dois combien ?» Non, c'est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit hein, dans ce monde. Forcément, à un moment donné ou à un autre, je vais payer quelque chose. C'est quoi le truc ? Dieu nous dit qu'il nous a donné. Et quand la Bible parle de donner, elle parle d'un cadeau, un présent qu'on reçoit gratuitement. Le pouvoir. Ce passage-là, je l'ai pris dans deux autres versions, dans la version du Semeur, où il nous est dit, elle nous a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Juste parce que c'est intéressant de prendre aussi d'autres versions pour essayer de voir quand même le verset, le passage. Comment est-ce qu'il est dit? Il faut avoir conscience que nos Bibles sont des traductions, d'accord? Donc c'est aussi intéressant de voir si ça reste vraiment le sens qu'on veut y mettre quand on le lit, ou s'il y a peut-être quelques nuances. Donc la Semeur dit nous a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Et une autre version, alors ça c'est j'ai noté c'est Osterwald parce que tout s'accorde un peu sur ce passage dans le même sens. Nous a donné le droit d'être enfant de Dieu. Nous a donné le droit d'être enfant de Dieu. Donc on parle de donner, on parle de pouvoir. Donc le pouvoir. Un pouvoir, c'est un événement qui change. Un changement, c'est un privilège, le droit, d'accord ? De devenir. Quand on parle de devenir, on parle d'un processus. Et on parle avant tout d'un commencement. Il y a un commencement, il y a le début d'un cheminement. D'autres versions parlent d'être fait. On parle de devenir, d'être transformé. Enfant de Dieu, quand on parle d'enfant de Dieu, c'est un changement de situation, et c'est un changement d'identité. Ce n'est plus la même situation. Donc sur le terme de donner, on a tous peut-être en tête des passages bien connus. La dernière fois, quand j'ai parlé de l'Évangile, vous avez dit, c'est quoi le verset qui résumerait tout un petit peu tout ? Vous m'avez dit, on m'a dit en tout cas, Jean 3, 16. Voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord ? La Bible parle de donner. Dieu a donné son Fils unique, celui qui est engendré. Romains 6, 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais, pour ceux qui connaissent, le don gratuit, là c'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et des fois, on pense d'une manière ou d'une autre, c'est le combat de toute notre vie peut-être, on pense à un moment donné ou à un autre mériter le salut que Dieu nous donne. Même si on ne le dit pas, d'accord ? Même si on ne le dit pas, on va faire quelque chose, on va agir, on va travailler, on va faire des choses, et d'une manière implicite ou pas, on va se dire quand même, moi, je mérite d'être sauvé. On ne le dira pas jamais comme ça. Mais on a la satisfaction, bien sûr, de ce que l'on peut faire. On a la satisfaction d'agir. Et comme vous connaissez, bien sûr, maintenant, l'histoire de Marthe et Marie, voilà, ça peut énerver, mais Marthe, qui était celle qui travaillait le plus, et Marie, qui était là, juste au pied de Jésus, qui attendait de Jésus toute chose, elle était là, elle écoutait, elle était juste en train d'écouter. Moi, personnellement, je crois que j'aurais été à Marthe, quoi. Je crois que j'aurais été comme Marthe, en train de se dire, mais quand même. Et je dis, mais Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Regarde là, Marie, elle a choisi la bonne part. Elle prend le temps de m'écouter. Elle prend le temps d'être à mes pieds. Elle prend le temps d'entendre ce que j'ai à dire. Et des fois, on va tellement à droite, à gauche, on fait tellement de choses qu'on ne prend pas le temps d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Et on voudrait par ça prouver peut-être qu'on existe. Mais on n'a pas besoin de prouver qu'on existe, qu'on a de la valeur ou autre chose. Dieu nous dit, tu as de la valeur, tel que tu es. Ne serait-ce parce que justement, tu existes. Ne serait-ce justement parce que nous sommes, nous existons. Et quand on regarde, vous savez que j'aime bien, moi, penser à l'univers comme il est grand, comme il est immense, comme il est extraordinaire. Et on pense à toutes ces... On réfléchit. J'aime bien voir les articles qui disent sur l'astronomie, sur les nouvelles planètes qui ont été découvertes, sur cette planète, elle est peut-être habitable. On va voir. Ça semble possible. Mais en fait, on la voit pas, la planète. Elle est déjà loin. On déduit de tout un tas de choses que la planète présente des choses. Mais c'est à des années-lumière de nous. Et il y a le prix Nobel, qui a dit récemment, il a dit, mais vous faites pas d'idée. On n'ira jamais habiter sur une autre planète. On n'ira jamais ailleurs, c'est pas possible. Ça, c'est, on imagine, on pense, c'est pas possible. Prenons déjà soin de cette planète qu'on a là. Prenons déjà soin de celle-là. Et des fois, on voit loin, on imagine les choses loin, tout ça, mais la réponse se trouve juste à côté de nous. Elle se trouve là, sans rien faire. Et quand on imagine tout ça, tout cet univers immense, on est là, notre planète, il y a de la vie, il y a bien sûr tout son lot de joie et de tristesse, mais il y a de la vie qui est présente ici, et c'est un miracle. C'est un miracle, parce que quand on regarde autour, on est en train d'essayer de chercher un petit peu ailleurs, est-ce qu'il y a de la vie ? Quand on parle de la vie, on parle de bactéries ou de choses comme ça. Hein. On ne parle pas de petits bonhommes qui marchent et tout ça. Déjà, si on trouve une bactérie sur Mars, on va sauter de joie. Mais on est là quand on regarde la planète sur laquelle on vit, il y a de la vie. Ça foisonne de vie, c'est un miracle permanent. C'est un miracle permanent dans lequel on se trouve. Et Dieu nous a donné ces choses-là. On n'a pas mérité ça. De la même manière que la Bible nous dit que, justement, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et donc Dieu veut prolonger nos pensées au-delà de ce que nous sommes, au-delà de notre seule personne, et comprendre que la Bible parle du fait que celui qui donne, c'est Dieu. D'abord et avant tout. C'est pas nos efforts, c'est pas nos pensées, c'est pas nos mérites, c'est pas notre argent, rien. Celui qui donne, c'est Dieu. Il nous a donné toutes choses, à la base de toutes choses, nous avons un don de Dieu. Et c'est un don qui est porté, comme le dit Jean 3,16, par l'amour. L'amour, c'est le fait de sortir de ses propres intérêts, d'accord ? De son confort, de sa propre personne, pour s'ouvrir aux autres, ne plus penser à soi-même. Et quand on parle, vous savez, bon, ça fait plusieurs fois que j'en parle maintenant, mais quand on parle du péché d'Adam, donc Adam, lui, la conséquence du péché, c'est qu'il s'est regardé lui-même. Comment est-ce que tu as vu que tu étais nu ? Auparavant, il n'avait pas vu qu'il était nu. Il ne se regardait pas lui-même. Il regardait ce que Dieu avait mis autour de lui. Il regardait ce qui s'était passé. Il a senti qu'il manquait quelque chose dans sa vie par rapport à la femme. Dieu a écouté ça. Mais à un moment donné, il s'est regardé lui-même. Pour voir qu'on est nu, il faut se regarder un peu soi-même. Il faut se regarder un peu le nombril, et même voilà, plus bas. Mais Dieu lui dit, qui t'a appris que tu étais nu ? Le moment où l'homme commence à penser à lui-même et à écarter tout ce qu'il y a autour pour se mettre en valeur soi-même, c'est le moment où le péché rentre dans sa vie. C'est le moment où le péché agit. C'est le moment où la mort agit, de sorte que l'homme meurt et reste seul. Et ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que nous ayons une vie qui soit une vie de relation. Une vie qui soit tournée vers les autres. Une vie qui pense à ceux qui sont dans la souffrance, une vie qui pense à ceux qui sont perdus, une vie qui pense à ceux qui n'ont pas la richesse de l'Évangile et la joie et le privilège de connaître Dieu. Jean 15, verset 13, nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été au-delà de tout ce que tout le monde, personne ne pouvait faire ça, personne n'avait envisagé ça, donner sa vie pour, pour d'autres, donner sa vie pour quelqu'un qui n'avait même pas mérité, avait plutôt mérité la mort. Christ a donné sa vie pour nous. L'œuvre qui s'est manifestée à la croix, c'est pas une œuvre qui s'est juste produite il y a 2000 ans et qui, wow, c'est de l'histoire ancienne. C'est l'œuvre qui agit chaque jour à la face du diable pour dire, nous ne t'appartenons plus, nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes plus des enfants de la colère, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus dans le mérite, nous sommes dans la grâce. Nous ne sommes plus dans la crainte, nous sommes dans la joie. Amen. Ensuite, le pouvoir, le privilège, le droit. En grec, le terme signifie autorité ou permission. Donc je répète, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'autorité ou la permission. Celui qui donne le pouvoir, c'est celui qui a le pouvoir. On est d'accord? Il ne peut être donné que par plus grand que lui. Quand on voit les histoires, les paraboles de Jésus, lorsque Jésus parle du serviteur qui est envoyé par le maître, il parle de ce serviteur qui est envoyé, et puis il y a l'un qui, les agriculteurs, ceux qui travaillent, ils ne veulent pas le voir. On peut donner un autre parallèle. Si demain on voit arriver, je ne sais pas, un agent du fisc qui arrive là, ou un contrôleur, etc., un huissier qui débarque, la première chose qu'on voit, c'est on voit la personne. D'accord? On voit la personne. Il y en a qui voient la personne et qui vont y aller, et pof, ils vont mettre quelque chose, ils seront pas d'accord. Mais au-delà de la personne, même s'il y en a une qui disparaît, il y en a 20 autres qui peuvent venir derrière. Parce qu'il ne s'agit pas de la personne, mais de l'autorité qu'elle représente. Il s'agit de ce qu'elle représente derrière. Et si on a un agent, si on a un huissier qui vient, on parle d'une autorité qui est bien plus grande derrière. C'est juste un représentant. Et Dieu nous a fait représentants et il nous donne le droit. Il donne le droit à un privilège, mais ce droit et ce privilège ne nous appartiennent pas. Les droits et les privilèges que Dieu nous donne, c'est ceux dont nous aurons à rendre compte devant le Père. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? À l'un, il a donné 2, à l'autre, il a donné 1 pièce, à l'autre, il en a donné 5. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Et Dieu nous donne certaines choses, pas juste pour pouvoir pour nous dire, bon, allez, tu as porté du fruit, c'est bien, mais parce qu'il nous donne la capacité de porter du fruit. Et que si nous ne rentrons pas dans ce projet de pouvoir porter du fruit, si nous ne rentrons pas dans la considération de ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a donné, c'est notre responsabilité. Et par le pouvoir qu'il nous donne, par ce pouvoir qu'il nous a donné, il nous rend responsables. Dieu met entre nos mains une clé qui ouvre la porte de la grâce. Jean, chapitre 8, verset 34, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et l'objectif de Dieu pour nos vies, c'est de nous rendre libres. Et le monde confond la liberté avec le fait de « je fais ce que je veux, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Je fais tout ce que je pense être bien. » Mais c'est oublier le fait que nous étions dans une position d'esclave. Celui qui est esclave et qui est libéré, il ne peut l'être que par celui qui a la clé de la liberté. Que par son maître, que par celui qui est plus grand que lui. Et de cette vie d'esclavage dans laquelle nous étions, parce que le péché est un esclavage, la position du péché, je ne veux pas juste parler en termes de « je fais ou je ne fais pas », d'accord ? Je parle de cette position dans laquelle nous sommes pécheurs, fait que nous sommes esclaves et que ça poursuit son chemin. Mais Dieu donc met entre nos mains la clé qui ouvre cette porte, la porte de la grâce, la porte de l'amour, la porte de la liberté. Et il ne nous met pas dans une position de faiblesse, mais d'autorité. Une position dans laquelle nous sommes en mesure de décider du chemin que nous voulons suivre. Et c'est ça la grâce. Des fois, il y en a qui vous dites, qui peuvent dire, oui, mais bon, toi, tu es croyant, mais en fait, tu n'as pas le choix. Voilà, si tu vis sous la culpabilité ou autre chose. Si c'est ça être croyant, si c'est ça croire en Christ, c'est une erreur. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. De beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu pensent. Que celui qui est croyant, que celui qui vit, qui vient à l'église, vit peut-être dans la culpabilité ou n'est pas libre de ce qu'il fait. Alors que c'est totalement l'inverse. Parce que la grâce nous donne de prendre conscience de la vie que Dieu nous a donnée et de pouvoir décider de ce qui est bon ou pas bien de faire, de décider de ce que nous ferons. Ne pas pouvoir décider, c'est ne pas être libre. Décider, c'est prendre acte de nos vies. Si je vous donne un autre, exemple, moi je suis auto-entrepreneur, d'accord ? Donc quand j'ai travaillé, que j'avais mon boulot, que j'allais au travail tous les jours, le matin j'y allais, le soir je revenais, et puis etc. Si j'avais besoin de prendre mes après-midi, de faire quelque chose, fallait que je prenne des après-midi ou autre chose. Ça c'était la vie normale. Et puis quand je suis devenu auto-entrepreneur, on m'a dit mais c'est bien, maintenant tu fais ce que tu veux. Maintenant tu peux faire ce que tu veux. Et c'est vrai. C'est vrai, quelque part. J'ai besoin de prendre un peu un temps à moi. Bon, je vais demander à personne, je prends mon temps. Mais par contre, je me rends compte que derrière, il y a aussi pas mal de boulot. Parce que je décide. Et si je décide si je fais des mauvais choix, je n'aurai pas de résultat à la fin. Et tous ceux qui peuvent témoigner de ça, d'être auto-entrepreneur, tout ça, ils se rendent compte des fois, au début, on se dit, ah, c'est super, hein. Les premiers jours où je me suis retrouvé auto-entrepreneur, je me suis dit, waouh, c'est bien, c'est cool. Bon, maintenant, il faut faire quelque chose quand même. Et alors là, il fallait gérer, parce que je travaillais à la maison, tout ça, c'est pas toujours simple, hein. Les enfants qui viennent un petit peu, on n'est pas de papa, tu veux pas jouer avec moi, tout ça. Ah, ok, c'est autre chose. Et j'ai besoin de produire du résultat. Et des fois, je me dis, finalement, je bosse peut-être plus que, qu'avant. Mais j'ai une satisfaction de pouvoir décider. Alors ça, c'est bon, un peu mon témoignage personnel. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a aussi, Gislain aussi est auto-entrepreneur. Hein, il se cache derrière le poteau. Il pourrait le dire. Hein. C'est parfois du boulot. Avec beaucoup de liberté, avec de grandes libertés, on a de grandes responsabilités. Et Dieu nous donne cette liberté, Dieu nous donne la liberté pour que nous soyons responsables, pour que nous apprenions à réfléchir sur nos vies. Pour que nous ne soyons plus esclaves ni pris dans le carcan du péché, mais que nous soyons libres. Mais avec la liberté, nous avons la liberté de faire aussi toutes sortes de choses. Ce qui plaît à Dieu comme ce qui ne plaît pas à Dieu. Le péché apparaît devant nos yeux beaucoup plus flagrant, beaucoup plus vrai. Ce qui justifie le fait que nous allions peut-être bien plus encore demander pardon à Dieu par rapport à des choses quoi qui nous heurtent, parce que le Saint-Esprit nous parle, parce que le Saint-Esprit nous dit voilà, là je pense que ça va pas. C'est normal parce que nous sommes en devenir. Nous avançons avec Dieu. Nous allons de l'avant. La clé que Dieu nous donne ouvre la porte d'un avenir, mais c'est que le commencement. C'est que le commencement de ce que Dieu fait. Dans Ecclésiaste 3:11, Dieu fait toutes choses belles, bonnes en son temps. Amen. Et même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous donne une clé. La clé qui ouvre une porte, la clé qui nous donne un avenir, la clé qui nous ouvre. Mais ce commencement fait partie d'un projet bien plus grand que Dieu, bien plus grand de Dieu, je veux dire, pas que Dieu, il n'y a rien de plus grand que Dieu, bien plus grand de Dieu, dans lequel nous ne voyons pas tout ce que Dieu fait. Nous ne savons pas jusqu'où porte la volonté de Dieu. Et pour ça, nous avons besoin de lui faire confiance. Le temps, c'est un paramètre que Dieu a fait pour nous donner de comprendre et d'apprendre les choses. Hein. Bon, s'il y a pas, moi j'aime bien imaginer. Je me dis, mais s'il n'y avait pas le temps, si le temps n'existait pas, on a du mal à imaginer. Mais ce que l'on fait dans le temps, dans l'espace temporel, ce qu'on fait dans le temps, c'est que c'est toute notre construction, tout notre devenir, tout ce que l'on fait. S'il n'y a pas le temps, l'information devient instantanée. Elle est présente simplement. Dieu est celui qui est de toute éternité. Et l'information, toutes les informations sont inscrites de toute éternité si on imagine que le temps n'est plus présent, d'accord? Alors c'est impossible, imagine. Je ne sais pas comment on peut... Parce qu'on est ancré là-dedans, d'accord? Mais tout ce que l'on fait, tout ce que l'on fait est un développement, est un progrès dans lequel nous avons à apprendre quelque chose, à comprendre quelque chose. Tandis que dans l'éternité de Dieu, tout ce qui est éphémère ne demeure pas. Parce que seules demeurent les choses qui sont intemporelles. Les choses qui n'ont... Tout ce que l'on fait ici-bas et qui peut être éphémère, ça ne demeurera pas devant Dieu. Seules les choses qui sont intemporelles, qui ne se laissent pas user par le temps, je dirais, pourront trouver une existence, pourront trouver une réalité devant le Père. Et parce que nous sommes en devenir, nous sommes inscrits dans une promesse d'avenir. Nous ne sommes plus destinés à la mort, mais à la vie. Plus destinés à l'échec, mais à la réussite. En Christ. En Dieu. Dans ses projets. Dans sa volonté. Dieu nous donne un avenir à saisir. Et c'est ça le droit qu'il nous donne. De saisir un avenir qui nous est présenté. Qui est présenté devant nous. Et on peut très bien le regarder comme ça et puis se dire, bah non. Il y a des gens qui peuvent très bien regarder et puis dire, bah non. Peut-être parce qu'ils n'ont pas compris encore les choses, pas compris la grâce. Peu importe. Dieu nous donne le choix. Lorsque l'évangile nous a été annoncé un jour, et il y a de l'évangile qui est annoncé de par le monde, il y a des gens qui disent oui, et il y a des gens qui disent non. C'est le choix que Dieu laisse à tout homme. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ce choix-là. On peut prier, on peut espérer, on peut souhaiter, mais on ne peut pas aller à l'encontre de ces choix-là. Et de même, en tant que chrétien, nous faisons des choix, et des fois, il y a des choix qui ne vont pas dans le sens que Dieu voudrait. Et peut-être des fois, il y a quelque chose sur lequel la parole nous titille, nous dit, mais là, tu vois, il y a un problème, il y a quelque chose qui... Moi, j'ai rencontré des personnes, et des gens même des fois très proches, à qui on a dit, mais ça, tu penses que c'est de Dieu? Ah non, mais écoute, ça, c'est entre Jésus et moi. D'accord, mais ce qui est entre Jésus et toi, est-ce que ça va? Ce qui est entre Jésus et toi, est-ce que ça va? Ça répond au standard de Dieu? Ça répond à ce que Dieu veut? Et je vais pas dire Dieu va trouver ça pour nous bannir ou autre chose, mais je vais dire le projet de Dieu, c'est que nous saisissions cet avenir qu'il a au-devant de nous. Et si cet avenir, nous ne le saisissons pas à un moment donné, nous risquons tout simplement de se stagner. Et il y a des fois des petites pierres qui posent des problèmes, vous savez, l'engrenage, un engrenage, c'est une petite pierre, c'est pas grand-chose qui peut empêcher tout un engrenage de tourner. C'est vraiment pas grand-chose. Et des fois, Dieu met un point sur notre vie, met un accent sur notre vie, sur un petit grain de sable. Et nous, on se dit, bah, c'est pas grand-chose. Mais peu de temps après, on se dit, mais j'avance pas avec Dieu. Et Dieu nous ramène tout le temps à ce petit grain de sable. Ça peut paraître pas grand-chose à nos yeux, mais pour Dieu, ça a de l'importance. Parce qu'il veut que le rouage, il veut que l'engrenage puisse tourner, puisse aller de l'avant. Tout est fait, tout est là. Tout est à portée de main, tout est fonctionnel, il y a des fois juste un grain de sable qui empêche le rouage de fonctionner. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est à nous d'entendre et c'est à nous d'écouter. C'est à nous de savoir être à l'écoute et de savoir que la petite, vous savez, c'est pas grand-chose, mais des fois on parle d'une petite voix ou autre chose. Dieu dépasse juste le fait de nous parler avec une voix grande ou une voix petite ou autre chose. Il sait parler à nos cœurs. Il sait parler à nos vies. Il sait la manière dont nos vies peuvent atteindre. Et si je demande à chacun d'entre nous de donner son témoignage, on pourra se rendre compte que le témoignage des uns et des autres n'est pas le même. Des fois, ils se ressemblent, ils se recoupent, mais on n'a pas le même témoignage. Parce que nous sommes uniques. Parce que nous sommes uniques déjà en tant qu'individus, mais aussi dans le plan de Dieu. Aussi dans la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu nous parle, il nous parle déjà personnellement, intérieurement. Quand on parle d'enfant de Dieu, c'est le terme qu'on connaît, bien sûr. Bah, je suis enfant de Dieu, je suis ami de Dieu. Ouais, ça, c'est je suis ami de Dieu, mais bon, il y a aussi je suis enfant de Dieu, on va dire. En tout cas, c'est un terme qu'on entend bien souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu ? Moi, je peux prier, je peux dire, Seigneur, merci parce que je suis ton enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce terme-là que j'utilise a une réelle accroche dans ma vie, dans ce que je réalise, dans ce que je comprends, dans ce que je considère de Dieu, dans la position que j'ai en Dieu? Est-ce que lorsque je dis, merci Seigneur parce que je suis ton enfant, est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose? Ou ça veut juste dire, merci parce que tu me prends dans tes bras? Ou toute autre allégorie qu'on peut imaginer. Est-ce que c'est de l'émotion? C'est le fait qu'on se sent bien en Dieu? Est-ce que c'est ça, être enfant de Dieu? C'est plus que ça. C'est plus que ça. Et il est question de devenir enfant de Dieu. Donc il s'agit de... ça se fait dans le temps, c'est un processus, c'est une progression dans le rapport que Dieu entretient avec son peuple, avec nous, avec ses enfants. Et la première des choses dont Jésus parle, c'est le fait de passer de serviteur à ami. D'accord ? On a ce passage dans Jean 15, verset 15, où Jésus parle et il dit je ne vous appelle plus serviteur. Pourquoi ? Ben parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, il y a déjà cette phase-là dans laquelle Jésus parle du fait que nous soyons amis de Dieu. Donc, on est OK là-dessus. Je suis ami de Dieu. OK ? C'est bien. Et dans Jean, verset 20, chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit, je passe un peu le verset, il dit à Marie-Madeleine, va trouver mes frères. Donc là, il ne s'adresse pas à ses disciples en tant qu'amis. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte. Là, on pourrait se dire, voilà, il parle de frères dans le sens, voilà, c'est mes frères et sœurs, ok, comme on parle de frères et sœurs en Christ, on se connaît, c'est bien, voilà, jusqu'où ça va. Mais il dit, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc là, c'est plus pareil, parce que de serviteur, le disciple est passé à ami, et d'ami, il est passé à frère et sœur. D'ami, il est passé à fils du Très-Haut. Et ça, c'est le projet de Dieu. Le serviteur, c'est celui qui sait. C'est celui qui ne sait pas ce que fait son maître. L'ami, c'est celui qui sait justement et qui est mis dans la confidence. Avec qui on discute. Donc il y a de la confiance. Il y a du partage. Il y a des moments qu'on prend. Mais le frère, c'est pas juste celui qui est au courant des affaires du Père, c'est celui qui porte le nom. C'est celui qui est impliqué dans la famille. C'est celui qui participe à l'héritage et au privilège du fils. Donc c'est pas rien. Le fait de dire je suis enfant de Dieu, c'est pas anodin. Ça marque bien plus que juste le fait de « je me sens bien en Dieu ». Ça me marque bien plus le fait que « je sens ton amour ». Ça marque bien plus le fait que « ok, merci Seigneur de me prendre dans tes bras ». Merci Seigneur de diriger ma vie. Ça marque une position dans laquelle je me trouve. Je suis enfant de Dieu, ça marque une position d'héritier. La position d'héritier, la position du privilège du Fils. Et lorsque Christ parle de ses serviteurs que le maître envoie, et ben il va envoyer tout un tas de serviteurs, et puis à la fin, il va envoyer le fils. Et même le fils vont le tuer. Et c'est ce que Dieu a fait avec son peuple. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé tout un tas de personnes pour prévenir le peuple, et tous ont été tués, jusqu'au fils qu'il a envoyé. Et c'était son projet, c'était son plan. Parce que la mort, c'est l'étape ultime au-delà de laquelle personne, en tant qu'homme, ne peut imaginer survivre. Mais là où est l'impossible de l'homme, c'est le possible de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est le fait qu'il l'a relevé. Et avec lui, dans notre position en Christ, nous sommes relevés en tant qu'enfants de Dieu. Et pas juste en tant que je fais partie de la famille de Dieu. D'accord ? Mais le fait que nous prenons part à un héritage et à un privilège. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, qui fait l'écho à un passage de l'Ancien Testament, « Je serai pour vous un père », donc c'était prévu par Dieu, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles », dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc c'est plus une relation de subordination, d'accord, le serviteur. C'est pas non plus juste une relation de confiance, mais c'est une relation de filiation. C'est une relation de filiation. La Bible nous appelle à être des enfants d'adoption. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3-5, il est dit « En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc c'est pas juste, c'est « j'ai voulu, j'ai désiré que vous soyez mes enfants ». D'accord ? Lorsqu'il est question d'être des enfants d'adoption, c'est pas « j'ai choisi d'être un enfant d'adoption à un moment donné », c'est le fait que Dieu choisit de nous rattacher à son héritage. Dieu choisit de nous rattacher à cette filiation. Dieu choisit de faire de nous ses enfants, des enfants d'adoption. Pas des enfants engendrés, mais des enfants d'adoption. Galates 4, verset 6 nous dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». Père, c'est le terme très révérentiel. On le garde aujourd'hui, mais c'est le terme « Abba », c'est « Papa ». C'est un enfant qui vient voir son père qui dit « Abba, Papa, mon Papa ». Et ça, c'est l'impact de la filiation sur nos vies. Le fait que nous pouvons nous approcher de Dieu et le considérer en tant que père. Et bien souvent, en fonction de l'histoire qu'on a, quelqu'un qui a eu un mauvais père aura du mal à imaginer Dieu en tant que père. Aura du mal à le penser. Parce que on se ramène à notre vécu. On se ramène à l'exemple qu'on a vécu. Mais quel que soit le père qu'on a eu, quel que soit le père qu'on a eu, Dieu veut se révéler, se faire connaître en tant que père. Pas comme notre père biologique, pas comme notre père sur terre, mais celui qui est à l'origine, qui est à la source de tout amour. L'adoption, c'est l'action de s'occuper d'un enfant qui est étranger. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que je vous apprends rien. Mais s'en occuper comme s'il était le nôtre. Comme si c'était notre propre chair. Comme si c'était l'un parmi les autres enfants. Et j'imagine celui qui, l'enfant qui est là et qui dit « Ouais, mais moi je suis un enfant d'adoption, je ne suis quand même pas un enfant comme les autres, voilà, je ne suis pas juste issu. » Mais dans le monde antique, donc c'est avant Jésus-Christ, il y avait une formulation typique par rapport à l'adoption. Et la notion d'adoption ne vient pas de l'hébreu, même si on retrouve des éléments, mais ça vient du monde grec. Et il y a eu des écrits qui ont été retrouvés en 1950, de ce que j'ai lu, parce qu'on ne savait pas très bien comment cette notion d'adoption opérait. Et il y a des écrits qui ont été retrouvés, des papyrus, dont on en avait entendu parler, mais il n'y avait pas de source par rapport à ça. Et en 1950, il y a des papyrus qui ont été retrouvés, où d'un coup on comprend la pensée de l'époque, par rapport à, et notamment sur ce sujet-là, dans lequel il y a une formulation typique qui était donnée, et qui dit « Je t'adopte comme fils et tout ce que je possède, considère-le comme tien. » Considère-le comme si ça t'appartenait. Et alors, c'est assez... vous imaginez si demain, de manière très concrète, un couple, des personnes vous adoptent. Ils vous prennent, ils vous conduisent, ils vous amènent dans la maison qui est la leur. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation pour comprendre que cette maison, c'est la nôtre. Il faut un temps d'adaptation. Toute personne, peut-être une personne qui est adoptée, on va l'amener dans une maison, elle va être chez des étrangers. Il va lui falloir du temps pour comprendre que cette maison, c'est aussi la sienne. Que cette maison, il n'y a pas de différence dans cette maison entre le fils et lui ou elle. Et on pourrait penser justement donc que le fils, bah finalement, c'est celui qui a plus de privilèges que celui qui est adopté. Mais il y a une vieille coutume grecque selon laquelle donc l'adoption était irrévocable. Et ce qui est assez étonnant, c'est que un fils engendré pouvait être déshérité. Un fils engendré pouvait être déshérité, mais pas un enfant adoptif. Parce qu'il est issu d'un choix, d'une décision. Dieu a choisi de faire de nous des enfants d'adoption. Et quand on parle d'adoption, ce n'est pas une seconde classe. C'est un privilège. C'est une grâce dans laquelle il nous invite à rentrer dans sa maison. Il nous invite à comprendre que, voilà, tout ce que j'ai est à toi. Et Jésus-Christ l'a dit. Tout ce qui appartient au Père, il appartient à lui. Tout ce que j'ai est à toi. Prends ce dont tu as besoin, mais agis en conséquence, bien sûr. En tant que fils, nous portons le nom de celui qui est dans le ciel. Quand on dit au nom de Jésus, tout à l'heure j'ai parlé de l'huissier, je sais pas, du fisc ou autre chose, mais quand on parle au nom de Jésus, on parle au nom du Père. On parle au nom de celui qui est à la source de toute chose. On n'est pas là en train de parler, c'est moi qui parle, c'est moi qui... Je suis là en ayant conscience que j'appartiens à une famille. Je suis là en ayant compris, en ayant pris le temps de comprendre quelle est la position que Dieu m'a donnée dans son royaume. Quelle est la position que j'ai en Christ ? Est-ce qu'un malheur, est-ce qu'une mauvaise nouvelle va remettre en question cette position ? Non. Si je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Si j'ai choisi Christ un jour dans ma vie, je suis enfant de Dieu. Je marche selon le Fils, selon Christ. Et le nom du Père, le nom du Père, c'est le nom de ma propre famille. Dans le cas de Jésus, le fait d'être fils impliquait notamment des notions qui étaient fortes. Et moi, je suis toujours étonné par ce passage dans Jean 11, où Jésus s'adresse, il y a Lazare, vous voyez la situation peut-être, il y a Lazare qui est mort. Lazare est mort, et c'est le drame, c'est la catastrophe, il a été mis dans le sépulcre, depuis 3 jours, Jésus vient, et il dit « ouvrez le sépulcre ». Donc tout le monde dit, mais il est mort quand même, depuis 4 jours, ça va sentir, ça va être terrible. Et Jésus parle et dit quelque chose, il dit, Père, donc papa, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc en tant que fils, voilà sa position. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc ce passage, je l'aime bien parce que c'est un passage où on voit la position du fils par rapport au père. Je sais que tu m'exauces toujours. Il n'y a pas de doute dans son affirmation. Jésus-Christ ne doute pas de la grâce du père. Christ vivait une relation d'amour avec le père dans laquelle il n'y avait aucune place au doute. Il savait qu'il pouvait compter sur lui. Il savait que quel que soit ce qui allait arriver, il pouvait compter sur lui. Et l'objectif du message de l'Évangile, c'est que nous rentrions dans cette relation de confiance absolue, où nous laissons Dieu être notre sauveur, où nous laissons le Père agir au-devant de nous. Nous cherchons tellement, mais tellement, bien souvent, à nous sauver nous-mêmes, à nous sortir de situations des fois inextricables, qu'il faut que Dieu nous pousse à bout pour qu'on dise « j'en peux plus, aide-moi ». Parce qu'on a envie de savoir qu'on est capable. Mais Dieu nous rend capable par la grâce qui nous anime, par la confiance que nous portons en Dieu. La confiance et l'amour que nous avons pour Dieu. Le fait que la Bible nous déclare enfants d'adoption, ça signifie que tout nous est donné en Christ. Mais le pouvoir qui nous a été conféré nous rend responsables des choix que nous faisons, nous rend responsables de cette position que nous avons en Christ. Ça n'enlève pas le fait que nous soyons des enfants d'adoption, mais ça nous rend responsables des choix que nous faisons. Ça nous rend responsables de nous placer devant le Père. Ça nous rend responsables de chercher sa volonté. Ça nous rend responsables de comprendre, d'agir et de vivre selon son cœur. Romains chapitre 8, verset 17 nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés en lui. » Le fait d'appartenir à une famille, le fait d'appartenir et de savoir que nous sommes héritiers de Dieu, signifie que notre vie, notre identité est totalement indissociable. Indissociable de la famille à laquelle nous appartenons. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les douleurs, rien ne devrait être en mesure de remettre en question, cette position-là. Rien dans notre vie ne devrait être en mesure de remettre en question cette position-là. Et s'il y a quelque chose qui remet en question cette position-là, alors nous avons besoin de réfléchir sur cette position, sur notre compréhension de la position qui est en nous, que nous avons devant Dieu. Est-ce que je vois la position d'enfant de Dieu dans toute sa réalité, dans toute sa vérité? Ce que Dieu a fait en choisissant de faire de nous des enfants d'adoption est un miracle. C'est un miracle dans lequel nos vies peuvent trouver une nouvelle identité, une nouvelle famille, un nouveau nom, et qui nous rend responsables et qui nous demande de savoir décider, de prendre les bonnes décisions. C'est jamais le fait que « Ah, mais moi je suis là, hein, c'est pas moi, hein, c'est Dieu, c'est la faute. » Nous prenons des décisions. Dieu nous implique dans ses projets. Dieu nous implique dans sa volonté. Et nous implique pour que nous ayons la connaissance, la compréhension, mais plus encore que la connaissance et la compréhension, la culture du royaume. La culture de la famille. Quand on appartient à une famille, il y a une culture. Et la culture, ça va très très loin. C'est pas de la connaissance. C'est pas être au courant. C'est déduire les choses parce que la culture, c'est le fait qu'on déduise, on arrive facilement à déduire une pensée, une compréhension parce que nos racines sont profondes dans la pensée de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans la compréhension de ce que Dieu veut. Parce que l'Esprit de Dieu habite nos cœurs et nous parle et nous donne de comprendre des choses qui sont bien plus profondes. Ce n'est pas que des mots. Le fait d'être enfant de Dieu, ce ne sont pas que des mots, ce n'est pas que des paroles, ce n'est pas que le fait de dire « je suis enfant de Dieu », c'est le fait de le vivre. C'est le fait d'être ses enfants d'adoption et de comprendre le privilège qu'il y a à être à ça. Et 1 Corinthiens chapitre 13, ah, vous connaissez tout ça. Trois choses demeurent. La foi, s'il y en a qui connaissent pas, il faut lire le titre de l'église. La foi, l'espérance et l'amour. Ça, ce sont les choses intemporelles. Et quand on parle de la foi, on parle de la confiance, d'accord, qu'on accorde à quelqu'un. L'espérance, c'est pas juste le fait de « oh, je crois que ça va arriver ». C'est l'assurance que nous, de ce qui se passera. C'est l'assurance de ce qui se produira. Le fait de s'attendre à. Et moi, je parle souvent de s'attendre à Dieu. Et je trouve que parler d'une relation, des fois, c'est compliqué. On parle d'une relation, avoir une relation avec Dieu. Mais s'attendre à Dieu, ça définit pour moi beaucoup plus ce que doit être une relation. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à ce qu'il va faire. J'ai cette assurance que Dieu ne m'abandonne pas. J'ai cette assurance que ce qu'il fait, il va le faire. L'amour, le fondement du désintéressement total. Et à la limite, donc la Bible le dit bien, si la plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que on comprend facilement que sans amour, tout le reste n'est pas possible. Nous ne sommes pas authentiques, nous ne sommes pas sincères, nous ne sommes pas vrais, donc que ce soit la foi ou que ce soit l'espérance, tout ça, ce qui gagne vraiment nos cœurs, c'est l'amour. Mais pas l'amour chamallow, hein. L'amour véritable, l'amour que le Père nous donne et dans lequel il nous donne de comprendre et de connaître notre véritable identité, cette nouvelle position dans laquelle nous pouvons dire « Abba, Papa, mon Père, mon Père ». Amen. Donc je crois que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'enseignement que on peut recevoir de Dieu. Parce qu'on a beaucoup de mots, beaucoup de paroles, on a beaucoup de, même de termes qui des fois reviennent dans nos prières, dans nos chants, et que des fois on peut redonner comme ça. Mais le sens des mots a de l'importance. Le sens des mots a une histoire. Le sens des mots, lorsque Dieu dit que tu es mon enfant, il ne donne pas des paroles en l'air. Il s'engage dans cette relation. Il s'engage dans cela. Et il nous donne une liberté, non pas la crainte de l'esclave, mais la liberté. Et je m'étais noté deux passages. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4,18. Et le passage qu'on a lu tout à l'heure. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Seigneur, je te remercie pour l'assurance, la confiance, l'amour, la passion, Seigneur, que tu donnes à nos cœurs. À l'égard de ta personne. Je te remercie, Seigneur, pour cette position que tu nous as donnée. Et si ce n'est pas le cas, si on en doute, alors, Seigneur, nous avons certainement besoin de venir vers toi parce que c'est le fait, c'est ce que tu veux, Seigneur, nous donner. Nous sortir de l'esclavage et pas juste nous considérer comme des amis, mais nous considérer comme des enfants. Seigneur, merci, Seigneur, parce que toutes les barrières, tous les ponts qui pouvaient se trouver entre toi et nous, toi, tu les as brisés. Toutes les barrières, tu les as brisées pour que nous puissions nous approcher de toi. Toutes les excuses que nous pourrions avoir, Seigneur, nous ne pouvons plus en avoir lorsque toi, tu saisis nos cœurs par ton amour. Et si ce matin, quelqu'un n'est pas saisi par l'amour de Christ, alors Seigneur, visite, Seigneur, son cœur. Visite nos cœurs, Seigneur, pour que nous ayons cette assurance, pour que nos vies soient transformées, que l'image du Père, que l'image de Dieu nous donne à nos vies d'être transformées en tant qu'enfants de Dieu, en tant que celui et celle qui ont le privilège, mais qui ont cette appartenance à cette famille dans laquelle nous trouvons et qui est irrévocable, qui ne dépend pas des situations, qui ne dépend pas des temps, qui ne dépend pas de ce qui se passera ou ne se passera pas, mais dans lequel, Seigneur, tu nous donnes l'assurance d'être dans le calme, d'être dans la paix, d'être dans la bienveillance qui est la tienne, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, demeurer, Seigneur, dans cette paix, ce calme, cette confiance dans laquelle tu veux nous placer. Du fait, Seigneur, que avant, Seigneur, que nous puissions nous appeler serviteurs, toi, tu t'es fait serviteur à notre place. Tu as pris les devants, Seigneur, et tu as donné, Seigneur, à notre démarche de pouvoir faire les premiers pas avec toi. Mais tu nous invites à marcher, Seigneur, encore à ta suite. Nous te remercions, Seigneur, de ces défis, de ces challenges des fois qu'on peut rencontrer, dans lesquels, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir un regard entièrement renouvelé pour voir, Seigneur, ce que toi, tu veux que nous voyions, pour comprendre ce que toi, tu veux que nous comprenions et pour rester, Seigneur, dans la joie. Comme Paul disait, réjouissez-vous, dans Philippiens 4, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours. C'est pas cette joie que donne le monde, c'est la joie que toi, tu nous donnes. Que ton nom soit béni et qu'il soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.